Le Centre d'entraide Racine Lavoie porte le nom de ses fondateurs. Et en fait, c'est au 25e anniversaire qu'on a choisi de rebaptiser l'organisme qui, en fait, offre de l'entraide aux familles, aux personnes dans divers domaines. Et on reçoit la directrice générale pour en discuter, Dominique Bastonnier. Bonjour, Dominique.
Bonjour.
Comment s'appelait l'organisme à la base, à ses débuts?
À ses tout débuts, il s'appelait le Centre d'entraide Saint-Eustache. En fait, au tout début, quand ça a été fondé, c'était d'abord mariage secours. Donc, le but, c'était le début des divorces, les difficultés, tout ça. Donc, quand Mme Lavoie a commencé au tout début, ça s'appelait mariage secours. Puis, rapidement, c'est devenu le Centre d'entraide Saint-Eustache.
Ah, d'accord. Est-ce que ça a des liens avec... je sais qu'il y a eu certaines décennies, il y avait des organismes là, qui aident... Ça n'a pas rapport à Marriage Encounter?
Non, à ma connaissance, non. Je ne suis pas encore ici, mais à ma connaissance, non.
Parce que je sais que cet organisme œuvrait vraiment dans l'aide aux couples. Il y avait aussi des ateliers de préparation au mariage. Donc, ça n'a vraiment rien à voir.
Ça avait peut-être des liens au départ, là, qui se sont inspirés, mais je pense qu'il n'y avait aucun lien avec ça. Ben, c'est peut-être Mme Lavoie qui aurait pu nous le dire, mais elle n'est plus de ce monde. Oui. Mais c'est ça. C'était au début, mais c'est rapidement devenu le centre d'entraide Saint-Eustache. Puis, au 25e anniversaire, ça a changé de nom parce que nous, on couvre un territoire de MRC. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, on est sur la rive nord, puis on couvre la MRC de Deux-Montagnes, donc qui sont les îles le long du lac des Deux-Montagnes, depuis Saint-Eustache jusqu'à Saint-Placide. Et souvent, avec Saint-Eustache, les gens pensaient qu'il fallait habiter à Saint-Eustache pour pouvoir bénéficier de nos services, alors que non. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est dit, c'est le temps de changer de nom. Puis, pour trouver un nom, l'organisme a donné le nom des fondateurs.
Donc, le curé Racine et Mme Lavoie.
Et Mme Lavoie, effectivement.
Donc, nos héros anonymes à l'époque, c'est ça, ils étaient anonymes et humbles, j'imagine.
Oui, tout à fait, parce qu'elle a commencé au tout début dans sa cuisine avec 7 enfants. Donc, c'était dans sa cuisine qu'elle recevait. En fait, sa cuisine et la bâtisse, c'est de l'autre côté de notre rue. C'est la même rue, donc c'est la bâtisse en face du bâtiment qu'on occupe présentement. Donc, elle a commencé dans sa cuisine, dans son salon, elle a impliqué son mari, ses enfants à ce processus-là. Puis, un an ou deux plus tard, ça devenait trop petit, puis ils ont déménagé dans la bâtisse qu'on occupe depuis lors, sur la rue, puis qui à l'époque appartenait au Club Richelieu, qui était un club de gens d'affaires. Mm-hmm. Donc, la bâtisse leur appartenait, puis la prêtait gracieusement, gratuitement à l'organisme. Okay.
Donc, expliquez-nous ce que fait le Centre d'entraide Racine Lavoie maintenant, puis on reculera ensuite un peu dans l'histoire pour voir comment ça a évolué.
Oui, mais en fait, le Centre d'entraide, qu'est-ce qu'on offre comme service? En fait, on rejoint une population qui rencontre des difficultés financières et sociales, c'est notre majeur. Donc, on offre différents activités et services pour ces personnes, principalement, je dirais, en sécurité alimentaire. Donc, c'est sûr qu'on a un volet de dépannage alimentaire, mais également, on a développé des activités de cuisine collective, autant pour des familles, pour des adultes, et également un projet qui est une cuisine collective qu'on appelle boîte à lunch, où c'est les parents qui préparent les lunchs pour leurs enfants qui vont à l'école. De la maternelle au secondaire 5. Donc, on a développé beaucoup d'expertise dans la région, au niveau donc, de ces projets de cuisine collective. Mais on offre aussi de l'écoute et de la référence. Donc, on est un pilier ici sur le territoire. Donc, les gens souvent vont nous appeler parce que ça dit, on est un centre d'entraide. Mm-hmm. Donc, il y a des intervenants qui écoutent, qui regardent la situation des gens et les orientent vers les différents services ou organismes de la région ou dans nos propres activités à nous.
Et comme la cuisine collective, les lunchs et tout ça.
Oui.
Donc, si je comprends bien, pour les lunchs, c'est qu'on se réunit entre parents pour faire une activité qu'on fait de toute façon, mais à la dernière minute, là, le soir, avec un peu de brou dans le toupette, puis c'est ça.
Oui, effectivement. Et pour les gens à faible revenu, il y a une subvention, un financement qui est donné. donc pour que cela coûte moins cher. Donc, on leur demande une petite contribution de l'ordre de 5 $ par enfant, mais pour faire les 5 lunchs de la semaine. Et avec les collations, puis les fruits, donc c'est vraiment des lunchs équilibrés. Ils reçoivent un thermos, et plus pour les enfants du primaire. Là, on sait qu'au secondaire, les thermos, c'est moins gagnant. Ça va être plus à ce moment-là des salades ou des sandwichs, mais pour les enfants du primaire, ils ont même un thermos, donc ils font vraiment des repas équilibrés. Là, c'est pas juste des sandwichs rapides. Mm-hmm. Là, c'est vraiment et chaque groupe est autonome, donc chaque groupe peut choisir les recettes, les menus qu'ils veulent faire. Et ils font leurs propres achats. Donc, ils vont regarder évidemment les spéciaux de la semaine, mais ils vont s'organiser pour les achats, tout ça. Donc, on vise beaucoup sur l'autonomie aussi des gens, leur participation pour ces activités-là. C'est sûr qu'il y a toujours une intervenante qui est présente.
Oui, c'est ce que j'allais vous amener, si c'est accompagné, parce que j'imagine qu'à travers l'activité alimentaire, on a l'occasion de communiquer différentes notions économiques.
Oui, tout à fait. Économique, puis on sait que travailler en groupe, c'est pas toujours facile non plus. Parce qu'il y a des gens qui se connaissent pas, il y a des gens de différents milieux. Donc, effectivement, ça apprend aussi toute la communication, le réseau social, les économies. Puis, bon, elle est là aussi s'il y a la gestion, ben, la gestion de groupe, tu sais, s'il y a des incompréhensions, des petits conflits, mais c'est vraiment minime. Mais l'intervenante est là pour travailler avec le groupe, pour que tout soit harmonieux aussi, puis que tout le monde reparte avec des bons lunchs, puis de bonne humeur après l'activité. Parce que ça demande quand même une bonne matinée, là. C'est quand même productif, là. Ils font à peu près... C'est sûr qu'on a des cuisines, c'est pas des cuisines de restaurant, là. C'est des cuisines, assez familiales, mais bien équipées. Donc, ils peuvent être à peu près 4-5 par an, puis ils cuisinent des fois pour 10 enfants, mais ils font 5 lunchs, donc... ils partent en partageant, mais ça fait quand même beaucoup de casseroles et de gros chaudrons là pour préparer tout ça en 3 heures, là, une demi-journée.
Mais c'est, j'imagine, aussi une connaissance de économiquement ce qu'on peut cuisiner qui est moins dispendieux, mais aussi au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on peut privilégier, parce que spontanément, il me revient en tête, là, l'un de nos invités il y a quelques semaines qui agissait un peu au niveau de l'insécurité alimentaire et qui disait que c'était pas rare qu'il ait vu des enfants qui partaient avec une sandwich au ketchup là, comme lunch.
Ah oui, tout à fait, effectivement. Donc, non, ici, tu sais, ça va être vraiment basé sur des repas équilibrés. Puis, en fait, c'est un tout, hein, c'est qu'il y a la sécurité alimentaire, mais en même temps, ça permet aux enfants d'être performant à l'école, d'être présent à l'école. Puis on vise beaucoup aussi, puis j'avais déjà fait une entrevue notamment pour une fondation, puis qu'est-ce que je disais aussi, c'est le parent aussi, tu sais, la fierté du parent de faire à manger pour son enfant, c'est quand même un acte, tu sais, d'amour. Puis l'enfant qui est fier d'arriver avec un beau lunch à l'école, puis en plus on aime beaucoup, en fait ce projet existe depuis une vingtaine d'années ici au centre. Et qu'est-ce qu'on aime beaucoup aussi dans ce projet, parce qu'il y a plein de belles initiatives, comme des petits déjeuners et tout ça, qu'on n'enlève pas. Mais ici, l'enfant n'est pas catégorisé. Il n'y a personne qui sait que c'est peut-être que c'est un enfant dont les parents n'ont pas beaucoup d'argent puis qui sont dans le besoin. Il va à l'école avec son lunch, comme tous les autres enfants. Puis il fait même l'envie des fois d'autres enfants, parce que son lunch est super beau, super équilibré. Donc, c'est aussi un plus pour cet enfant-là, puis de se dire que c'est son propre parent qui lui a fait son linge. Donc, c'est une portée encore même plus grande que juste la sécurité alimentaire.
Absolument.
Là.
Je vois tous les regroupements que vous faites. Mais est-ce que les heures d'ouverture font en sorte que des parents qui manquent de temps ou qui manquent d'idées, mais qui n'ont pas nécessairement d'enjeux financiers, peuvent aussi participer? Ou c'est vraiment réservé?
Oui. Non, mais en fait, c'est sûr que nous, notre majeur, c'est des gens à faible revenu, mais on est ouvert, le projet est ouvert à tout le monde. Donc, même des parents qui sont pas dans le besoin peuvent participer à l'activité. C'est juste que là, à ce moment-là, ils payent le plein prix. Il n'y a pas de subvention. Et on a toujours des cuisines, tu sais, qui sont ouvertes à des groupes qui voudraient venir ensemble faire à manger. On a déjà prêté des locaux, plus à des cuisines collectives, mais des mamans, tu sais, qui voulaient juste faire à manger ensemble pour que ce soit économique, mais on leur a juste prêté nos locaux, la cuisine, puis ils sont venus même, je pense que c'était un dimanche, puis ils ont fait ensemble à manger parce qu'ils voulaient, puis il y en a qui sont déjà venus faire des conserves, ces choses-là. Puis même les boîtes à l'homme, ça pourrait être ouvert, pour autant qu'on ait de la disponibilité dans nos cuisines, parce qu'on est quand même pas mal occupés. Mais oui, il y a une ouverture où les gens peuvent même être introduits dans un groupe qui existe déjà. Ils vont avoir juste à payer la totalité du coût, puis il n'y aura pas de financement qui sera accordé.
Dominique, on va compléter par le bloc alimentaire avant de prendre une petite pause. Je sais que vous faites aussi de la transformation alimentaire.
Oui, en fait, la transformation alimentaire, c'est un projet qui vise à transformer les surplus alimentaires. Soit parfois, on a une distribution alimentaire, puis cette distribution alimentaire, elle est approvisionnée par Moisson Laurentide. Donc, c'est eux qui nous apportent les aliments. Donc, nous, on ne cherche pas spécifiquement à aller chercher des aliments partout. C'est vraiment avec Moisson Laurentide qu'on travaille. Des fois, on a quand même des petits dons de commerçants alentours qui nous donnent du pain, des légumes. Et aussi, dans notre distribution alimentaire, des fois, on a des surplus. Ça paraît fou, mais des fois, on a des surplus parce que on sait que les distributions alimentaires, les moissons, ils nous donnent tout ce qu'ils reçoivent. Puis des fois, on a une quantité énorme de bananes qu'on n'est pas capable de passer aux gens, ou des citrouilles. Nous, les gens sont à pied, donc des fois, c'est lourd. Donc, il y a des choses qui passent moins, mais on les transforme pour faire des plats qu'on congèle et qu'on redonne aux distributions alimentaires suivantes ou qu'on met dans un frigo collectif au printemps, l'été, l'automne qu'on a ici à Saint-Eustache ou encore pour faire du dépannage. Donc, tout ce qu'on a en surplus, que les gens, nous, dans notre distribution alimentaire, les gens, on prépare pas des boîtes. On a toujours eu le principe que les gens peuvent, on met tout sur les tables et les gens peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Comme ça, ça évite de donner des boîtes, puis les gens, il y a des choses qu'ils n'aiment pas, puis qu'ils jetteraient. Donc, ils peuvent prendre qu'est-ce qu'ils veulent, aussi en fonction de leur goût. En fonction que s'ils trouvent que les légumes n'est pas beau, ils ont le droit de pas le prendre. Donc, des fois, il y a des choses qui sont moins populaires ou tout ça. Ben, tout ça, on le transforme, on fait des plats et on le redistribue de différentes façons, je dirais, à travers des projets qu'il y a dans la communauté ou directement dans notre propre milieu.
Je vois qu'il y a une belle réflexion sociale et de rentabilité à travers tout ça. Dominique, je vous propose de faire une courte pause et j'aimerais discuter après des autres services, dont les cliniques d'impôts, parce qu'on entre bientôt dans cette période.
Effectivement.
Si. De retour en studio au Héros Anonyme, nous recevons cette semaine Dominique Bastonnier, directrice du Centre d'entraide Racine-Lavoie. Donc, on a vu en premier bloc à quel point l'organisme a des approches judicieuses pour réussir là, à nourrir de différentes façons, à transformer, à rien perdre, tout ça dans une... je trouve qu'il y a beaucoup de respect des gens... Dans leur autonomie, je trouve, dans votre approche, Dominique. Parlant d'autonomie, là, il y a tout un domaine là où c'est pas toujours facile d'être autonome. C'est les fameux rapports d'impôts qu'on doit faire là, chaque année. Pour certaines personnes, là, ça amène des enjeux. Et là aussi, le Centre d'entraide Racine-Lavoie, vous êtes présent pour aider. Qu'est-ce que vous faites?
Effectivement, le centre, c'est un de nos gros projets, la clinique d'impôts, qui va commencer très prochainement, là, au début mars. C'est une grosse organisation. C'est les cliniques d'impôts, en fait, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais les cliniques d'impôts, il y en a un peu partout à travers le Québec. C'est c'est des initiatives, entre autres, de Revenu Québec et Revenu Canada, qui accréditent des organismes tels que le nôtre, mais on a d'autres à Sainte-Thérèse et partout au Québec, comme je le mentionnais, pour faire les rapports d'impôts pour les gens à faible revenu. Donc, eux, ils ont vraiment des créneaux, là, des montants d'argent, là, comme si on était en couple tout seul avec des enfants, etc. Et c'est sûr que c'est pour faire des impôts quand même relativement simples, là. On rentre pas, tu sais, il faut pas que les gens ont des maisons, des épargnes énormes, etc. Donc, c'est vraiment quand même des impôts assez,
assez de base, mais malgré tout. Malgré tout, oui, des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui oublient certaines aides auxquelles ils auraient droit parce qu'ils ne le savent pas.
Oui, effectivement. Effectivement, puis en plus, on le sait de plus en plus, puis c'est que les impôts sont indispensables pour avoir tous les crédits d'impôt auxquels on a droit, les allocations familiales, le supplément de revenus garanti, pour pouvoir avoir accès à des logements sociaux, il faut faire ses rapports d'impôts, donc puis j'en oublie là, les personnes handicapées, tu sais, les répits, en tout cas, il y a plein de choses qu'il faut avoir fait ces rapports d'impôts pour avoir droit à ces crédits d'impôts-là. Donc, c'est une nécessité. Puis, pour nous aussi, depuis toutes les années, c'était important que ce soit quelque chose qu'on offre parce que ça permet quand même aux gens moins nantis de pouvoir récupérer des fois des montants d'argent qui leur permet d'améliorer un peu leurs conditions de vie. Donc, la commune d'impôt a commencé, je pense, au tout début qu'ils avaient créé ça, là, cette initiative-là, dans les fin des années 80, donc début 90. Donc, ça fait 35 ans que la commune d'impôt 36 existe ici au centre. Ça a pris de l'ampleur, puis on sait, bon, on est parti du papier, puis maintenant, on est vraiment informatisé, là, c'est envoyé électroniquement. Donc, c'est des équipes de bénévoles qui font ça.
Ah oui, combien de bénévoles et combien de personnes vous aidez chaque année?
Pour les préparateurs, parce que c'est toute une organisation, pour les préparateurs, on a environ, je vous dirais, presque 10 bénévoles préparateurs. Et on a aussi environ 5 à 7 bénévoles qui sont plus dans l'accueil des personnes, dans les appels téléphoniques. C'est toute une organisation, là. Je pense que l'intervenante qui s'occupe de ça, la coordonnatrice, elle commence déjà à préparer tout ça avant le temps des fêtes. Là, elle le prépare là. Nous, on a toujours l'impression qu'on est encore dans les impôts, là, parce que ça finit jamais. Puis, après ça, on a 10 semaines vraiment intensives, là, où on fait les rapports d'impôts de l'année qu'il faut faire, là. Donc, pour cette année, c'est les impôts 2024. Pendant environ 10 semaines, là, ça va commencer début mars pour finir fin avril. Et c'est ça, les gens viennent avec leurs documents, on fait tout leur import d'impôt. Puis l'année dernière, on a fait plus de 1960 rapports d'impôt. Oui, dans ce laps de temps-là, donc en 10 semaines. C'est sûr que là, on double, hein, parce qu'on a le fédéral et le provincial, là. Donc, mais ça veut dire qu'on a aidé plus de 1000 personnes de notre communauté là à faire, puis on répond pas à la demande.
Avez-vous besoin d'autres bénévoles? On peut lancer...
Mais non, là, c'est trop tard. Que
l'année prochaine.
Soit enregistré, c'est tout un processus. Hein, il faut qu'il soit enregistré auprès de Revenu Québec et Revenu Canada, parce qu'il y a quand même une enquête, là, de savoir... Puis là, ils reçoivent, parce que maintenant, c'est informatisé, donc il faut aussi que les gens soient familiers avec... avec les formulaires sur Internet, puis ils ont comme une clé pour envoyer. Donc, tout ça, c'est un processus, puis ils en donnent un certain nombre. Donc, pour cette année, on est à pleine capacité, puis on pourrait pas en prendre plus, parce qu'il faut aussi les locaux, il faut les installer, il faut les ordinateurs. Ça, on en reçoit quand même, mais des portables, parce que chaque bénévole a son propre ordinateur là pour faire ses rapports d'impôts-là. Et mais on continue des fois dans le courant de l'année à en faire pour ceux qui sont en retard aussi, parce qu'on a aussi ce programme-là pour faire les rapports d'impôts en retard. Donc des gens qui on en a déjà eu là qui pour différentes raisons ont pas fait leur rapport d'impôts pendant 5 ans, 6 ans, ben on peut remonter puis on peut faire les rapports d'impôts pour qu'ils puissent bénéficier de tous les crédits auxquels ils auraient droit aussi là. Donc, ça peut être des personnes, des fois, qui ont été dans la rue raison, là.
Des affiliés du système, comme on dit. Vous avez nommé, Dominique, des formulaires et logements sociaux. Oui. Je sais que c'est deux domaines aussi dans lesquels vous intervenez d'une manière ou d'une autre. Entre autres, comment aider à remplir différents formulaires, parce que je pense qu'il y a quand même un haut niveau de personnes analphabètes fonctionnelles, et je pense peut-être à des immigrants qui ne maîtrisent pas nécessairement le français. Et Dieu sait que les formulaires ne sont pas toujours simples à remplir.
Oui, effectivement. Ça, oui, c'est ça. On offre sur rendez-vous, évidemment, mais on offre l'aide pour remplir des formulaires. Ça, c'est ouvert à tout le monde, hein, peu importe le statut. Je veux dire, peu importe les revenus, là, il n'y a pas de critères de revenus. Effectivement, on peut aider les gens à compléter des formulaires parce qu'effectivement, ben, on a quand même une forte proportion de personnes aussi qui sont analphabètes ou qui sont analphabètes fonctionnels, là, tu sais, comme on dit. Mais quand ça, on rentre dans des formulaires, ben, comme on, c'est comme complexe. Nous-mêmes, des fois, quand on a des formulaires, on les regarde, puis bon, on les remplit pareil, mais on se dit, je me suis trompée, pas trompée. Donc, des fois, c'est des termes et tout. Donc, oui, on va aider les personnes, toute personne qui a besoin d'aide pour des formulaires gouvernementaux. C'est sûr qu'on rentre pas dans les choses juridiques, là, on s'entend, parce que là, c'est un autre domaine, puis on rentre pas dans... Mais tout ce qui pourrait être un formulaire, justement, pour les offices municipaux d'habitation, tu sais, c'est quand même assez ardu comme formulaire. Ça demande beaucoup de choses... formulaire la pension, chercher allocation familiale. Des fois, on a aussi des demandes, mais ça, c'est différent, mais quand même, il faut, mais ne plus que d'avoir son certificat de naissance. Mm-hmm. Il y a bien des gens, là, pour différents, puis ça, on en a besoin pour plein de choses. Donc, il faut écrire au directeur, de l'état civil, des fois c'est pas dans la même province, il faut trouver où, donc on va aider aussi dans le processus, aider les gens à avoir les bons formulaires puis à les compléter, donc et les immigrants entre autres aussi, où c'est pas toujours évident, même si quand on prenne le français, quand on tombe dans des formulaires des fois,
oui c'est ça exactement,
il y en a certains des fois qui sont même traduits, hein, donc là, la traduction est pas toujours claire, donc effectivement, tu sais, ça donne
on a parlé de l'office municipal d'habitation, je sais que le centre d'entraide Racine-Lavoie, c'est particulièrement illustré là, pour toute son aide au niveau du logement social aussi?
Oui, oui, ben c'est sûr que le logement social et le logement est essentiel et on se rend compte que ça gruge et on en parle de plus en plus. Je pense que j'écoutais hier les nouvelles. Ça gruge de plus en plus le budget des ménages ou des personnes, même beaucoup les personnes seules, parce qu'on sait que les personnes seules... ben ils ont moins de revenus des fois même que des familles avec enfants, donc ça gruge beaucoup. Donc on a toujours dit qu'il fallait que les gens puissent se loger de façon adéquate et que ça coûte le moins cher possible. Donc on a toujours été porteurs au moins de projets ou d'accompagner des initiatives en logement communautaire, social, abordable. Il y a plein de thèmes maintenant. Donc on a fait partie pendant plusieurs années ici du conseil d'administration de l'Office régional d'habitation, entre autres, parce que pour nous, c'est essentiel le logement. Puis on le voit que de plus en plus de familles, ben, ça devient difficile. Et dans quoi on coupe le plus après, ben, ça va être probablement dans l'alimentaire ou dans d'autres choses. Parce que
Tout est relié et vous tenez compte de ça dans votre
service. Oui,
votre
tout à fait. Puis ça, avoir un bon logement aussi, ben ça va faire du bien au sentimental, donc on le voit. Puis bon, on ne cachera pas la crise de l'itinérance et tout, ben c'est beaucoup en lien, on en parle beaucoup avec le problème de logement.
Donc, Dominique Bastenier, on va sur votre site Internet si on veut en savoir davantage?
Oui, tout est là. On a une infolette aussi, donc les gens peuvent s'inscrire, ils reçoivent toutes les informations de tout ce qu'on fait, de tout ce qui s'en vient. Donc, il y a pas mal d'informations, on a une page Facebook, Instagram, donc on est quand même, on essaye d'être le plus visible possible.
Bien, on est très heureux d'avoir pu y contribuer aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique Bastenier, directrice du Centre d'entraide Racine-Lavoie. Merci, Dominique.
Merci à vous. Bonne journée.